BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous recevrons dans la première partie de l'émission Branko Milanović, le père de la courbe de l'éléphant, célèbre courbe sur l'évolution des inégalités mondiales. Et puis dans la deuxième partie, nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nous retrouverons nos chroniqueurs, Stéphanie Colo, notre bibliothécaire pour un livre d'avant, Benaouda Abdelhaim, notre globetrotter pour sa moisson d'études du monde entier. Et puis cette semaine, dans la librairie de l'écho, un renfort, Alexandre Bruno de Couber, qui viendra nous parler d'un livre étranger qui fait un tabac en ce moment. N'oubliez pas notre page Facebook, notre compte Twitter. Et on démarre tout de suite avec notre invité. Peu d'économistes peuvent se targuer d'apporter des contributions nouvelles et originales pour décrypter et analyser les tendances lourdes qui traversent nos économies et nos sociétés. Et évidemment, pour alimenter les débats autour de ces tendances, eh bien, notre invité du jour est de cette trempe-là et nous sommes heureux de lui consacrer la première partie de cette librairie de l'écho. Bonjour, Branko Milanović.
Bonjour Emmanuel, merci de m'avoir invité.
Eh ben, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Vous avez été économiste en chef à la Banque mondiale, vous êtes professeur à l'Université de New York et donc vous publiez en français « Inégalité mondiale » aux éditions La Découverte. Alors, Branko Milanović, vous êtes d'abord connu pour cette fameuse courbe, dite courbe de l'éléphant, que nos téléspectateurs vont voir à l'écran sur la couverture de votre livre. Alors, l'objectif de cette courbe et de votre travail, c'était au départ, vous avez segmenté la population mondiale selon ses revenus et mesuré l'impact de la mondialisation sur les revenus de ces différentes catégories sociales. Est-ce que vous pouvez nous résumer les conclusions auxquelles vous avez abouti ? Est-ce que la mondialisation a fait gagner tout le monde ou bien est-ce qu'il y a des gagnants et des perdants ?
Il y a des gagnants et des perdants, ce qui n'est pas surprenant, parce que vraiment c'est un processus de telle envergure et d'importance qu'il serait vraiment très, très, disons, surprenant que tout le monde gagne. Alors, en quelque sorte, la courbe démontre, bien sûr, que tout le monde a gagné un peu, mais il y avait vraiment des grandes différences entre les gros gagnants et ceux qui ont gagné très peu ou rien du tout. Alors, ceux qui gagnent rien ou très peu, alors on les appelle les perdants. On les appelle les perdants parce que par rapport aux autres qui ont gagné énormément, ils ont gagné presque rien. Alors, quels sont les grands gagnants? Deux groupes. Le premier groupe, c'est vraiment les Asiatiques, la classe moyenne à l'Asiatique et la classe élevée asiatique, bien sûr, parce que il y a beaucoup de Chinois, mettons, qui sont le top 1% du monde. Et la deuxième grande groupe gagnante, ce sont vraiment les gens les plus riches, top 1% mondial, parmi lesquels il y a quelque chose comme 6 à 7% des Français, 12% des Américains, etc. Qui sont les perdants? Les perdants, vraiment, c'est la classe moyenne des pays riches.
Ouais.
Alors c'est en quelque sorte ça c'est le résumé de la courbe.
En gros, pour ces populations, donc vous avez pris entre 2008 et quasiment aujourd'hui, et donc les augmentations de revenus c'est quand même substantiel. Pour par exemple, on parle des classes moyennes asiatiques, c'est 40% d'augmentation du revenu pour les très riches aussi. Et en gros, pour les classes moyennes occidentales, c'est quasiment zéro quoi.
C'est quasiment zéro. Oui, c'est vraiment une très grande différence. Et cette différence devient encore plus grande quand vous regardez par exemple les gagnants, combien ils ont gagné en termes absolus.
Oui, alors on va y venir.
Oui, ok.
On va y venir. Simplement quand même une question de méthodologie. C'est extrêmement rare les économistes qui produisent vraiment des données nouvelles, des analyses nouvelles. Vous avez dû récolter des données dans le monde entier. C'est le fruit de combien d'années de travail, finalement, cette courbe qui paraît très simple à regarder comme ça?
Non, cette courbe paraît très simple, mais vraiment, faire cette courbe m'a pris quelque chose comme presque 15 ans.
Ah oui.
Mais je dois dire que j'avais de la chance, vous avez mentionné, j'avais de la chance d'être à la Banque mondiale à l'époque. Parce que c'est encore le lieu, la meilleure place pour collecter les données de tous les pays. Parce que, bien sûr, vous avez donné d'Europe, vous avez donné d'Amérique du Nord, etc. Mais alors, qui est-ce qui va avoir des données de Nigeria, de Laos, de Birmanie, des pays comme ça? Alors, c'est la Banque mondiale. Et comme j'étais dans la Banque mondiale, dans le département de la recherche, c'est là que vraiment tous ces données vraiment venaient. Mais à l'époque, je dois le dire, vraiment très peu de gens, presque personne, je dois dire que j'étais le premier, vraiment ne pensaient pas à faire ça à niveau global. Parce qu'on était vraiment très limité encore à faire des trucs au niveau national.
Alors, on l'a vu, effectivement, ça a profité aux classes moyennes des pays émergents, aux très riches chez nous, mais vous dites en valeur absolue, en fait, ces gens de la classe moyenne émergente, ils sont extrêmement nombreux, mais chacun a gagné un peu, mais pas des sommes considérables. Absolument. Alors que les très riches, ils ont gagné beaucoup. Puis, vous redonnez les grandes masses.
Oui, par exemple, si vous prenez l'augmentation de PIB global entre ces deux dates, et vous regardez qui a gagné de l'augmentation, alors vraiment, c'est 44% était gagné par le top 5%. Et 25% gagné par le top 1%. Tandis qu'on, comme vous disiez tout à l'heure, les classes moyennes des pays émergents, ils ont gagné beaucoup en termes en pourcentage. Mais leur revenu de base étant très limité, le gain absolu était aussi relativement limité. Il n'était pas énorme qu'on le pense.
Alors, les conclusions auxquelles on arrivait avant, c'était de dire, bon, la mondialisation, ça réduit les écarts entre les pays,
absolument,
mais ça creuse les inégalités au sein des pays. Ça, c'est vrai.
Absolument.
Vous êtes d'accord avec ça?
Absolument. D'ailleurs, c'était quelque chose que ressort très clairement de travaux que j'ai fait. Vraiment, et c'est vraiment très, une chose absolument essentielle. Les différences entre les pays, surtout entre les grands pays d'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, vraiment deviennent vraiment très sensiblement moindre qu'elle n'était avant, mais les différences au sein des pays, au dedans des pays, augmentent.
Alors, vous essayez d'identifier dans votre livre les grandes forces à l'œuvre qui expliquent l'évolution de ces inégalités, et en fait, la découverte que vous avez faite, c'était à partir de l'insatisfaction des analyses dont on disposait il y a encore 15 ans. Qui était de décrire un petit peu les inégalités comme un processus linéaire. Et vous dites finalement non, quand on regarde la dynamique des inégalités, oui, ce sont des dynamiques cycliques.
Oui, je pense qu'au niveau des pays, surtout des pays riches, on pensait dans le passé que vraiment il y avait une phase d'augmentation,
ouais,
et ensuite une phase de la diminution.
Ouais.
Mais c'est parce
que... Ça, c'était la grande théorie de Kuznets.
Parce que, mais je pense que ce qui est arrivé, c'est que Kuznets pensait, d'ailleurs il avait raison à cette époque, il voyait seulement une seule vague. Il ne pouvait pas imaginer qu'il pourrait avoir une autre vague où il y aurait encore une fois l'augmentation, et en espérant-le, je pense qu'il y a des forces qui diminueraient les inégalités dans les pays riches. Alors, je pense qu'il faudrait vraiment les voir comme les cycles, c'est-à-dire augmentation, on arrive à un point maximum, et ensuite il y a la diminution.
Alors, quelles sont les forces à l'œuvre dans cette dynamique? Si vous reprenez les grands cycles d'évolution des inégalités dans l'histoire, est-ce que vous pouvez identifier des périodes et les dynamiques à l'œuvre?
Mais vous savez, en termes très généraux, il y a les trois forces qui influent, les trois forces de dynamique. Alors, il y a la technologie. Ouais. Si la technologie change, par exemple, s'il y a beaucoup plus de gens qui sont éduqués, ou s'il y a une change technologique qui favorise des classes éduquées, comme c'est le cas maintenant, alors bien sûr, ça augmente les inégalités. S'il y a l'ouverture, comme la mondialisation, généralement, ça augmente les inégalités. Mais il y a aussi la politique économique. La politique économique pourrait être une politique économique contre les inégalités, ou ça pourrait être une économique politique qui facilite les inégalités. Alors, je pense que ce sont les trois choses en termes très, très généraux. Alors, quand vous me demandez quelles sont les forces qui vraiment marchent maintenant, alors je vous dirais clairement, ouverture, mondialisation favorise les riches ou les gens qui ont beaucoup de pas mal d'éducation. Technologie fait la même chose. Alors, il ne reste que la politique économique qui devrait faire quelque chose.
Oui, mais elle marche pas aujourd'hui, la politique
économique.
Mais
elle ne marche pas, je pense aussi, pour deux raisons qui sont en quelque sorte implicites. Premièrement, c'est plus difficile de le faire dans le cadre de la globalisation. Parce que les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont des qualifications, ils peuvent quitter le pays.
Ouais.
Il envoie l'argent quelque part et vous avez des paradis fiscaux, vous avez la possibilité de vraiment prendre tout votre travail, toutes vos entreprises, etc. et de déménager. Alors c'est pour cette raison que ça marche pas. Il y a une autre raison, c'est que les riches, je pense, contrôlent beaucoup plus le processus politique maintenant qu'ils ne le faisaient dans le passé. Alors ils passent des lois, des régulations qui leur profitent.
Il y a une espèce de politique de classe, quoi.
Oui, une espèce de politique de plutocratie.
Mais alors, dans le passé, qu'est-ce qui a fait que... Parce que ce mouvement-là, qui est celui qu'on connaît aujourd'hui,
oui,
il a déjà existé dans le passé. Et après, les inégalités se sont réduites, quand même.
Absolument.
Alors, sous l'œuvre de quelle force? Parce que finalement, vous décrivez des cycles un peu historiques. Et la question qu'on a tous envie de se poser, c'est est-ce que finalement, on se retrouve pas dans la même situation que dans les années 30, par exemple?
Oui, et quand vous demandez quelles ont été les forces, vraiment, qui ont fait diminuer les inégalités après. Les gens très pessimistes, ils disent, OK, les forces qui ont diminué les inégalités, c'était la guerre, la destruction du capital, et ensuite, là, je suis plus optimiste que ça, mais je pense que ensuite, c'était le rôle des syndicats, le rôle des partis de la gauche, l'augmentation du niveau de l'éducation partout. Et l'augmentation du niveau d'éducation signifiait qu'il y avait beaucoup plus de gens éduqués et que l'excès de salaire que les éduqués pouvaient recevoir, les gens éduqués pouvaient recevoir, diminuait. Alors vraiment, je pense que sont vraiment les syndicats, la politique et l'augmentation de l'éducation. Alors qu'est-ce que ça change maintenant? Je dirais que maintenant vraiment le rôle des syndicats et de politique de gauche est beaucoup moindre qu'il n'était dans le passé.
Mais vous voyez par exemple ces inégalités, on voit bien ce que ça crée, le trumpisme, le Brexit, les gilets jaunes, oui, en France, et que derrière c'est les partis populistes, nativistes comme on dit, aussi. Et c'est quoi la suite?
Je ne sais pas quelle est la suite, mais je vous dirai, parce qu'on me pose cette question très souvent, on me dit, est-ce que vous pouvez prouver, qu'il y a une causalité entre la courbe d'éléphant et ce qu'on voit?
Et oui.
Alors je lui ai dit, OK, je ne peux pas prouver, parce que vraiment c'est impossible de prouver, ce sont vraiment des processus très très compliqués, vous ne pouvez pas prouver quelque chose de telle importance. Mais ce que vous pouvez dire, ce qu'on voit dans la courbe d'éléphant est consistant et cohérente avec ce qu'on voit au niveau politique. Et ouais, je pense que c'est très clair. Si vous n'avez pas eu une augmentation des revenus des classes moyennes dans les pays occidentaux pendant 25 ans, alors, bien sûr, il faut s'attendre à que ces classes, ces groupes de gens ne soient pas très contents.
Mais est-ce que ce qui compte, c'est les inégalités ou est-ce que c'est finalement le niveau de pauvreté? C'est-à-dire qu'on se dit finalement, est-ce que c'est si grave que ça si les inégalités augmentent, du moment que finalement la pauvreté globalement recule?
Non, je suis totalement d'accord avec vous. Si vous me donnez la question, est-ce qu'il est plus important qu'il y a moins de pauvreté ou l'augmentation des inégalités?
Ouais.
Bien sûr, la pauvreté est la chose la plus importante, la diminution, réduction de la pauvreté est la chose la plus importante. Mais dans le calcul politique qu'on fait maintenant, le fait qu'il n'y avait pas l'augmentation des revenus, de pouvoir d'achat d'un groupe assez large de gens. En Amérique, c'est 30% des gens. En France, probablement 20% ou quelque chose de pareil. C'est quelque chose de très important. Ce sont pas des gens, bien sûr, qui sont au niveau global pauvres. Ce sont pas des gens qui vont mourir de faim ou les gens qui vraiment n'ont pas accès aux voitures, à la télévision et des autres choses. Mais ce sont des gens qui mesurent leur propre niveau de vie par rapport au niveau de vie des compatriotes qui appartiennent au top 1%, au top 5%.
Oui, mais en fait, les inégalités, c'est un peu moi quand je me compare aux autres. Mais ce qui compte, c'est que moi, j'aille mieux quand même.
Non, non, les deux choses sont très importantes. Il est très important pour vous que vous ayez plus de choses. Et bien sûr, c'est là que je dis absolument l'augmentation des revenus, que ce soit parmi les pauvres ou les riches, c'est très important. Mais il y a aussi la comparaison. Vous ne serez jamais totalement content seulement avec l'augmentation de votre propre revenu, à moins qu'il y ait tout de même un certain rapport que vous trouvez acceptable.
Alors,
avec les autres.
Il y a un champ que vous explorez aussi dans votre livre et qu'on n'a pas beaucoup exploré jusqu'à maintenant, c'est cette idée que les inégalités des chances, ça va bien au-delà de ce qu'on mesure d'habitude au sein des pays. C'est-à-dire que quand on dit inégalité de statut, etc., on regardait avant ça au niveau des pays. Et vous vous dites, ben non, il faut regarder aussi cette inégalité des chances, il faut la regarder aussi entre les pays.
C'est quelque chose de nouveau, parce que vraiment, généralement, presque encore maintenant, quand on dit, par exemple, il y a inégalité de chances en France, on dit en France, en Amérique, en Allemagne, on pense vraiment à inégalité de chances entre les gens qui habitent ce pays, c'est-à-dire entre les citoyens de ce pays. Ouais. Mais si vous vraiment élargissez votre domaine d'intérêt qui devient mondial, alors c'est par définition que vous posez la question, mais comment avec les inégalités de chance au niveau global? Et là, vraiment, les résultats sont absolument étonnants, en quelque sorte. Les inégalités de chance entre les gens des pays riches, en France, ou en Amérique, en Allemagne ou ailleurs, et par exemple les pays africains, est tellement important que peut-être quelque chose d'entre 60 et 80% de votre revenu est expliqué par le fait que vous êtes français ou que vous êtes résident en France, par rapport à quelqu'un qui est en Madagascar ou Mali. Alors, je pense que le chiffre est absolument ahurissant.
Alors, il y a un moyen d'essayer de corriger tout ça, et c'est un des paradoxes sur lesquels vous insistez dans votre livre. Vous dites, à un moment où tout est plus mobile, les capitaux, les idées, etc., finalement, les migrations, ça n'augmente pas beaucoup.
Non.
La part de la population mondiale qui migre, elle est constante à l'échelle du temps.
Oui, c'est un paradoxe, parce que d'ailleurs, il faut vraiment insister sur le fait que c'est un paradoxe. Parce que si on a la mondialisation, on laisse tous les facteurs de production vraiment être mobiles. C'est bien sûr le travail, le capital, c'est bien sûr les marchandises, les idées, technologies. Alors, qu'est-ce qui reste? Il y a un facteur de production qui s'appelle le travail, qu'on ne laisse pas aller d'un pays à l'autre. Alors, personnellement, je serais totalement en faveur, idéalement, de la mobilité totale du travail. Mais, politiquement, comme on le sait, c'est pas vraiment quelque chose qui est faisable, c'est pas quelque chose qui est réaliste. Alors, c'est pour cette raison que je dis, OK, je commence avec cette proposition, c'est un principe, mais comme ce principe n'est pas politiquement possible, alors il faudrait trouver quelque chose d'autre.
Ben oui, mais vous proposez des solutions. Vous dites, effectivement, on comprend bien que d'un côté, il faut ouvrir davantage les frontières, en même temps, il faut mieux contrôler les flux migratoires, et vous faites des propositions sur le statut des migrants, par exemple.
Oui, je fais la proposition qu'il y a une espèce de migration circulaire où les gens, une fois ils ont des postes de travail en France, c'est-à-dire il y a un job en France, ils viendraient ici, ils resteraient pendant une durée de 4 ou 5 ans et ils seraient forcés de retourner dans leur pays. Alors, c'est pas une solution extrêmement élégante, c'est pas une solution qui est très belle, c'est une solution discriminatoire, je suis totalement d'accord avec ça, j'en conviens, mais je pense que cette solution permettrait à des gens des pays pauvres d'augmenter leurs revenus, d'être un peu moins pauvre qu'il l'était, ça permettrait aux Français d'avoir des travailleurs étrangers et ça ne créerait pas des problèmes politiques qui pourraient être créés par le fait qu'on ouvre la voie vers la citoyenneté française à tout le monde qui vient ici.
Alors, je vais vous demander de faire un exercice compliqué, c'est de se projeter vers l'avenir. Alors d'ailleurs, vous êtes assez impitoyable avec cet exercice. Vous dites finalement, quand on reprend ce qu'écrivaient les économistes dans les années 60, 70, 80, 90, tout le monde s'est complètement trompé en projetant finalement les tendances à l'œuvre à l'époque. Ça n'empêche que je vous demande quand même, parce que c'est la question que tout le monde se pose, quel est l'avenir des classes moyennes des pays occidentaux?
D'abord, je dois dire, je suis très content que vous ayez mentionné combien les gens se trompaient dans les années 60, 70.
Donc c'est pour pas vous mettre la pression,
Non, mais je vous donne trois grands changements que personne n'a prévu. La fin du communisme, zéro.
Ouais.
L'avènement de la Chine, zéro.
Ouais.
La fin, en quelque sorte, ou l'attaque contre l'état de bien-être, zéro. Alors vraiment, trois grands changements qui sont intervenus, on ne les voit pas. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Nous aussi, on fait la projection du présent dans le futur, parce qu'autrement, vraiment, si vous disiez des choses très farfelues, peut-être que vous auriez raison, mais vraiment, ça va avoir... Peut-être on vous dit, vous avez de la chance, mais vraiment, il n'y a pas de logique là. Alors, quand je les projette, je pense pense que vraiment, à mon avis, je suis assez pessimiste parce que je pense ce qui va arriver dans les pays riches, ce serait une très forte polarisation, encore plus forte qu'actuelle. Vous aurez des gens qui sont vraiment très bien intégrés dans cette économie mondiale. Mmh. Alors vraiment, il faudrait une société à part. Et d'autre part, vous savez, le secteur de services qui, en quelque sorte, servirait ces gens qui ont d'argent, mais qui ont besoin de services qu'ils ne peuvent pas acheter en Birmanie ou en Chine. Parce que si vous avez service de quelqu'un, de vous amener, par exemple, la nourriture, de vous servir, de massage, yoga et des histoires pareilles, vous devez avoir...
Quoi.
C'est un service, mais ouais. C'est un service personnel qu'on peut pas vraiment délocaliser.
Mais donc vous dites qu'il y aura plus de classe moyenne au sens.
Alors oui, dans ce sens-là, j'ai peur vraiment que la classe moyenne vraiment disparaisse.
Est-ce que finalement la classe moyenne, ça n'était pas une parenthèse dans l'histoire d'une période où on a eu une énorme croissance très forte avec beaucoup de ruissellement?
Oui.
Est-ce que finalement, parce que ça a deux siècles, la classe moyenne. Avant, ça n'existait pas.
Il
y avait les riches et les pauvres.
Et en plus, c'était une classe moyenne qui a bénéficié d'une espèce de développement qui demandait développement industriel, manufacturier, où vous aviez vraiment le truc qu'on appelle Fordisme. Beaucoup de gens dans les mêmes usines, avec mêmes qualifications, avec mêmes intérêts.
Je vais vous emmener sur un autre terrain.
Oui.
Le terrain de foot. Parce que vos analyses, elles s'appliquent, mais alors de façon spectaculaire, à l'évolution du football. Racontez-nous vos travaux, parce que vous avez fait des gros travaux sur l'économie du foot.
Oui, d'abord, j'aime le foot et aussi je profite de cette occasion pour féliciter l'équipe de France qui est pour la deuxième fois la championne du monde. Alors vraiment, c'est quelque chose de très spécial. Mais ce que les analystes de foot démontrent, c'est vraiment une chose que vraiment tous les amateurs de foot savent. C'est que la commercialisation du football a amené la situation où les grandes équipes qui ont de l'argent vraiment achètent tous les meilleurs joueurs, ces équipes vraiment dominent le foot. Alors c'est, je regardais ça, disons, empiriquement.
Donc les écarts entre les clubs de foot dans un pays
augmente.
Ou dans un continent se creusent,
augmentent. C'est vraiment, c'est très clair. Nous, on peut dire vraiment actuellement, quels sont, par exemple, les 6 ou 8 clubs dans le quart de finale de Ligue des Champions l'année prochaine.
Mais grâce à ça, ça réduit les écarts. Comme la mondialisation réduit les écarts entre les pays,
absolument.
Ça réduit les écarts entre les équipes nationales.
Ça réduit les écarts. Je vous donne l'exemple. Par exemple, vous prenez les joueurs croates qui étaient vice-champions du monde. Ils jouent tous dans les équipes internationales Real Madrid, Barcelone hier. Alors vous pouvez le voir d'une manière suivante. Ils vont d'une petite ligue, parce que s'ils étaient restés en Croatie, vraiment leur talent ne serait pas développé aussi qu'il l'était.
Ouais.
Ils vont en Espagne, ils vont en Angleterre, les talents se développent. Une fois tous les 4 ans, ils retournent pour jouer pour la Croatie et les écarts entre les équipes nationales diminuent.
Eh ben formidable, mais le foot c'est vraiment le microcosme, la représentation de l'économie mondiale sur tous les plans. Hein. Vous dites qu'il y a le seul marché mondial, c'est des joueurs,
il
n'y a pas de marché mondial des patrons.
Absolument.
Il y a un vrai marché mondial des joueurs de foot.
Non, je joue de foot. Je pense que le foot c'est le marché le plus intégré du monde. Et d'ailleurs mon truc avec la migration, vraiment ce qui serait très bien, si le marché des ingénieurs marchait comme ça.
Ouais.
Les ingénieurs nigériens viennent en France, viennent en Amérique, ils acquièrent des connaissances, ils retournent en Nigeria, ils deviennent les meilleurs ingénieurs Nigeria pour le pétrole, etc. Alors ce serait vraiment réplication de ce qu'on a vu en foot.
Merci beaucoup Branko Milanović d'être venu nous voir dans la librairie de l'Écho. Vous publiez Inégalité mondiale aux éditions La Découverte. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'Écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'Écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Stéphanie Collo qui nous parlera d'un livre du passé ou du futur, vous verrez. Et puis Belaouda Abdennaïm, notre globetrotteur, qui nous livrera sa moisson d'études du monde entier. Et puis on aura un renfort sur l'international, vous allez voir, avec Alexandre Bruno qui nous présentera un livre
étranger qui n'est pas encore sorti en France et qui fait un carton aux États-Unis. Et puis on démarre évidemment avec nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste alternative économique et responsable des pages livres du magazine et du site. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Europe, chroniqueur critique attitré de la Société d'économie politique et directeur de la revue Sociétale. On commence avec le choix de Christian, La lutte et l'entraide, par Nicolas Delalande aux éditions du Seuil.
Nicolas Delalande, c'est un jeune historien qui a le sens du récit, le sens des archives, et donc moi j'ai trouvé que c'est un livre très très plaisant. Il nous raconte quoi? Deuxième moitié du 19e siècle, vous savez, on appelle ça la première mondialisation quelquefois, et donc face à cette mondialisation des entreprises, il y a une tentative de régulation par les travailleurs, par la solidarité ouvrière internationale, et c'est cette histoire que nous raconte Nicolas Delalande, l'Association internationale des travailleurs, qu'on appellera plus tard la première internationale. Et il nous montre qu'effectivement, il y a eu des tentatives d'entraide. Alors, c'est aussi le moment, la deuxième moitié du 19e siècle, où il y a beaucoup de grèves générales un peu partout. Donc, et du côté du patronat, et du côté des gouvernements, on a l'impression que l'AIT, c'est devenu une institution très puissante, qui a beaucoup d'argent pour aider les grévistes partout dans le monde. Et Nicolas Delalande dit, j'ai regardé les archives, en fait, ils arrivent tout juste à payer leur loyer, et encore, ils ont du mal. Mais ça montre bien qu'on a cru que c'était une grande puissance, en fait, de l'international ouvrière qui s'était mis en place à ce moment-là. Les questions d'argent jouent un rôle clé. L'AIT, ça regroupe des syndicalistes qui sont plutôt des employés qui sont assez bien payés. C'est pas les ouvriers du bas de la révolution industrielle. Hein. Donc ils ont un petit peu d'épargne. Et on leur dit surtout, n'achetez pas de titres de la dette publique. N'essayez pas de devenir actionnaire des entreprises pour toucher des dividendes, pour prendre une partie du capitalisme. Il faut qu'on crée des organismes de crédit à part, à côté, ouvriers. On trouve aussi cette volonté de contrôler l'argent dans les fameuses caisses de prévoyance. Ouais. Alors on a quelques pages magnifiques d'une grève au Creusot chez Schneider, où le patron il prend 2-3% des salaires pour offrir des logements, pour offrir des services d'éducation. Mais les ouvriers, les employés disent, nous on voudrait contrôler cet argent, on veut avoir un droit de regard. Et bien sûr le patronat ne veut pas, d'où des grèves. Autre chose amusante, Londres à l'époque, et la City de Londres, c'est le premier centre financier mondial. Eh bien, les ouvriers français vont voir les ouvriers de Londres pour leur demander de l'argent, leur demander des prêts pour être soutenus au moment des grèves. Donc, vous voyez les bronziers parisiens qui viennent recueillir de l'argent auprès des relieurs de livres londoniens qui vont leur prêter de l'argent pour soutenir leur grève. C'est tout ça que nous raconte Nicolas Delalande. Le fond, sur la forme, c'est vraiment bien. Alors après, Je vais assez vite sur le 20e siècle. Des acteurs économiques et sociaux, mais aussi des acteurs politiques qui sont antimilitaristes juste avant la Première Guerre mondiale, antifascistes entre les deux guerres, anti-impérialistes après la Deuxième Guerre mondiale. Il va y avoir des batailles, la Première Internationale va s'effondrer, il va y en avoir une deuxième. Jusqu'aux années 70, à peu près, on trouvera un écho, mais dans la conclusion, Nicolas Delalande nous dit, aujourd'hui, face à la mondialisation, il n'y a pas de solidarité ouvrière internationale. C'est dommage, en tout cas, dans la deuxième moitié du 19e, il y en a une, ils ont décrit les ressorts. Moi, j'ai trouvé le livre passionnant.
Quel paradoxe, hein. Plus de mondialisation et d'un seul coup, moins d'international ouvrière.
Oui, moi, j'ai pas été vraiment passionné. J'ai trouvé que c'était plus anecdotique que véritablement un vrai récit. Alors, bon, dans ce genre de livre, je me suis dit, il y a deux entrées. Il y a l'entrée militante, et puis ensuite, qui va m'agacer. Et puis ensuite, il y a l'entrée historique qui va me passionner. Alors, l'entrée militante, la première page, l'auteur nous parle de libéralisme inégalitaire et de repli nationaliste. Je me dis, ça va, la baisse gaucho.
Il décrit la réalité.
La baisse gaucho-mondaine est à l'heure du jour. Bon, ça va très bien.
Là, il est vraiment dur, Jean-Marc.
Non, mais
c'est vraiment pas le temps du livre.
Oui, exactement. C'est pas le temps du livre. Dès la troisième page, c'est fini. On passe dans la partie purement historique. Et là, grande déception, parce que ce qu'a dit Christian Chavagneux, c'est-à-dire l'international des travailleurs n'avait pas de sous, elle n'arrive même pas à payer son loyer, ça prend 100 pages. 100 pages pour nous raconter ça. Et après, effectivement, alors, et puis il n'y a même pas les contes de la, il y a des anecdotes, des personnages qui apparaissent, qui disparaissent. Tout ça paraît extrêmement faible en tant que type d'individus qui nous sont présentés. Les rivalités entre Bakounine et Marx au sein de cette internationale sont évoquées, mais considérées comme étant accessoires par rapport à ces personnages, encore une fois, qui pour moi sont secondaires. La seule chose que j'ai vraiment trouvé intéressante, c'est justement quand il montre qu'en réalité, derrière ce discours qui était un discours de solidarité, il y avait des intentions question qui n'était pas forcément aussi pure qu'on le croit. Il prend l'exemple des chevaliers du travail, qui était une organisation américaine. Et ces chevaliers du travail, ils aidaient les ouvriers européens à faire la grève. Et quand on regarde pourquoi, c'était pour qu'ils restent en Europe. En disant, s'ils ont de bons salaires en Europe, ils vont pas être incités à venir aux États-Unis. Parce que s'ils arrivent aux États-Unis, ils vont nous faire concurrence et ça va faire baisser nos salaires. Et donc, on a intérêt à les soutenir, à faire en sorte qu'ils soient bien payés pour qu'ils restent chez eux. De même, les ouvriers de Londres, il explique effectivement la montée en puissance des trade unions, une tradition syndicaliste britannique qui est une des premières à émerger quand on voit ce qui est devenu le syndicalisme britannique aujourd'hui. Et bon. Et cette tradition, effectivement, assez vite se donne comme objectif de faire en sorte de casser la concurrence faite par les autres ouvriers, par les autres pays. Et donc,
Donc il y a plein de choses dans ce livre, Jean-Marc.
Mais non, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses où on perd son temps. Il aurait fallu le ramasser en 30 pages pour dire, vous savez, ils étaient internationalistes en parole et ils sont allés se faire tuer à la guerre de 14 sans qu'aucun ne proteste. Donc finalement, ils n'étaient pas aussi purs que vous croyez. S'il suffisait de dire ça, ça faisait 30 pages et ça faisait un livre à peu près présentable.
Il y a quand même beaucoup de choses. Alors votre choix, Jean-Marc, alors on reste dans un livre d'histoire. Hein.
Dans un livre d'histoire.
Le sel de, de Jean-Claude Hocquet, c'est aux éditions du CNRS. Et c'est là, les éditions du CNRS.
Oui, alors
on dit toujours.
Oui, effectivement.
C'est du sérieux.
C'est du solide. Il faut effectivement rentrer là-dedans avec précaution parce que ça ne se lit pas comme un roman. C'est un livre qui est assez décousu en plus. Ouais. C'est pas une histoire chronologique du sel. C'est plutôt des coups de projecteur sur certains aspects de la récolte du sel, du fonctionnement de l'économie du sel. Donc, il rappelle que le sel, c'est un objet essentiel dans notre vie. D'ailleurs, pour le goût, il y a le salé et le sucré, pour la conservation des aliments. Et puis, il dit, avec le temps aussi, il y a une mutation qui s'est faite. Le sel est de moins en moins utilisé pour conserver les aliments, mais de plus en plus utilisé dans l'industrie chimique. On est passé du sel du jambon à l'esprit de sel, c'est-à-dire à l'acide chlorhydrique. Alors, à partir de là, il dit, quand on regarde comment ça fonctionne, il y a un certain nombre de choses qui caractérisent cette saga du sel. La première, c'est que le sel n'est pas forcément aux endroits où on en a besoin. Donc, il y a tout un problème de transport, d'infrastructure, de mise en place de tout un réseau, y compris avec beaucoup d'hommes qui sont mobilisés pour le transporter. Ensuite, avec le 19e siècle et la mutation d'utilisation du sel, il y a un progrès technique assez fort sur la façon de récolter le sel, d'utiliser le sel. Il y a un petit portrait d'Antoine Baumé qui est un personnage qui aurait pu être davantage décrit, qui est celui qui invente l'appareil de mesure de la quantité de sel qu'il y a dans l'eau. Donc, c'est un personnage assez pittoresque qui méritait, à mon avis, un portrait beaucoup plus développé. Donc, il y a tout un tas de descriptions, de lieux, avec les gens, avec l'intervention de l'État. L'État a tout de suite été impliqué dans l'affaire, et pas seulement sous forme d'impôts, il a été impliqué dans la façon de stocker. Et il y a le fait que maintenant, effectivement, le sel continue à nourrir une activité absolument colossale, avec le fait que l'État a plutôt tendance à se retirer, et que les populations continuent à avoir besoin de sel, mais que l'enjeu est déjà moins fort et moins prégnant qu'il l'a été dans une certaine période.
Christian Chavagneux.
C'est un peu une occasion manquée, parce qu'on a l'impression que l'auteur connaît vraiment bien son sujet. Il aurait pu nous faire un livre un petit peu plus agréable. Alors, vous l'avez dit, Emmanuel, les éditions du CNRS, bon, ça reste un peu chercheur. On commence bien. L'exploitation du sel, c'est l'exploitation des travailleurs du sel. Esclavage, servage, on commence vraiment par une histoire assez générale. Et après, c'est comme l'a dit Jean-Marc, le livre est très décousu. Ce sont des coups de projecteur sur les comptes d'un exploitant, sur telle région, puis une autre région, une autre région, une autre région. On a l'impression d'une addition de monographies qui, du coup, on a un petit peu de mal à accrocher. Quand il y a des personnages un peu intéressants, on passe vite dessus. Alors, au milieu, on se retrouve avec de nouveau un chapitre général sur le sel. C'est un acteur clé de la mondialisation. Et depuis longtemps, on s'aperçoit que la France est un grand, grand producteur au Moyen-Âge, grand producteur, exportateur de sel. La région qu'on aime bien avec Jean-Marc, hein, on voit Brouage et on voit les bateaux hollandais qui viennent à Brouage chercher le sel de la basse Seudre et repartir vers le nord de l'Europe pour distribuer le sel un peu partout, pas seulement en Hollande. Et puis après, on replonge encore dans des petites monographies. On arrive à la fin, à la conclusion du livre. L'auteur nous dit, mais bon, je vous ai parlé de la gabelle, ce fameux impôt sur le sel, mais qu'est-ce qu'il y avait comme contrebande ? Un magnifique chapitre sur la contrebande à écrire, ça aurait accroché le lecteur. Il nous dit qu'il y avait des grandes entreprises. Il nous cite les noms en France, en Angleterre. Là, il fallait des monographies sur ces grandes entreprises. Enfin, il a un matériau absolument extraordinaire, je trouve, pour faire un grand livre, un grand récit qui pouvait passionner le lecteur. Et là, on se retrouve avec un livre de chercheur, un peu décousu, une addition de monographie. C'est dommage, parce qu'il y a quand même plein d'informations dans ce
livre. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Christian.
Eh bien, écoutez, quand vous êtes d'accord, je n'ai rien...
Notez-le, c'est suffisamment rare pour que ce soit noté. Oui,
je le note et je le range. Vous savez qu'on a une étagère spéciale hein, dans notre librairie sur les quelques livres qui font consensus entre vous deux. Je le rajoute, même si vous n'êtes pas enthousiastes tous les deux. Donc voilà, mais je le mets quand même. Allez, on retrouve Stéphanie Colo, notre voyageuse dans le temps. Vous allez voir, 1947. Je vous vends la mèche. À tout de suite.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Emmanuel.
Allez, en quelle année arrêtez-vous notre machine à voyager dans le temps?
Alors
cette semaine,
vous avez un peu vendu la mèche. Hein. On s'arrête en 1947, année de publication de La France contre les robots de Georges Bernanos.
Ouais.
Un manifeste contre la civilisation des machines.
Déjà en 47. Hein.
Eh oui.
D'accord. Bon, Georges Bernanos, un mot?
Alors, quelques mots. Il est né en 1888, mort en 1948, écrivain français. Il suit des études de droit et de lettres, puis milite au sein de l'Action française. Fervent catholique, monarchiste, il est blessé pendant la Première Guerre mondiale et devient inspecteur des assurances. Il se consacre entièrement à la littérature après la publication de son livre, le premier qui a un grand succès, Sous le soleil de Satan, en 1926. Et c'est aussi l'auteur du journal d'un curé de campagne exilé au Brésil pendant la Seconde Guerre mondiale. Il soutient la résistance depuis l'étranger, puis revient à la libération.
Alors, qu'est-ce que cette civilisation des machines contre laquelle il lutte?
Eh bien, la civilisation des machines est l'émanation de la philosophie libérale anglo-saxonne à l'époque, basée sur l'égoïsme et l'uniformisation. Elle encourage le matérialisme mis sur la quantité et non sur la qualité, consacre la technique et dévalorise la spiritualité. On retrouve ici hein, son catholicisme. L'efficacité, la performance, la rentabilité, eh bien, l'emporte sur tout le reste. L'homme n'est plus qu'un simple rouage, un exécutant sans libre arbitre. Il est utile que s'il est capable de produire quelque chose.
Christian, vous direz que c'est pas l'âge des machines, que c'est simplement le libéralisme ordinaire.
Georges Bernanos dit, le progrès n'est plus dans l'homme, il est dans la technique, dans le perfectionnement des méthodes capables de permettre une utilisation chaque jour plus efficace du matériel humain. Mais attention, hein, Bernanos n'est pas contre les machines, ni contre le progrès.
Ben c'est ça, il est antilibéral, juste en fait.
Il dit, le danger n'est pas dans la multiplication des machines, mais dans le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués dès leur enfance à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. En clair, trop s'appuyer sur les machines, la technique, c'est abandonner notre humanité, c'est renoncer en quelque sorte à nous-mêmes.
Et alors, qu'est-ce qu'il préconise, Georges Bernanos?
Eh ben, sa solution, lui, c'est d'être un homme contemplatif dont l'impératif, c'est la liberté. Il dit, l'état technique n'aura demain qu'un seul ennemi, l'homme qui ne fait pas comme tout le monde, celui qui a du temps à perdre, qui croit à autre chose qu'à la technique. Et pour lui, eh bien, le peuple français est ce peuple de la liberté qui refuse d'entrer dans cette civilisation des machines. Les Français refuseront les deux mots d'ordre de cette civilisation qui sont obéissance et irresponsabilité.
Et uniquement parce qu'ils sont français.
Et oui.
Jean-Marc Daniel.
Non, moi, je dirais que ce qui fait une des forces du libéralisme, c'est la nature de ses ennemis. Entre les marxistes et les réactionnaires catholiques, ça valorise quand même le libéralisme.
Ah, le discours sur ce que doit être l'homme aujourd'hui à l'ère des machines.
Oui, enfin, c'est le monastère franciscain comme réponse à la machine, c'est quand même assez court. Il y a à cette époque aussi, c'est l'époque où écrivait Jacques Ellul, mais Ellul, il se lance, lui, sur le côté protestant. Lui, c'était son protestantisme. Mais dans les deux cas, il y a cette espèce de nostalgie d'une société très marquée par la religion.
Un mot, Christian?
Oui, c'est pas un livre facile à lire. Moi, il m'a pas passionné. Hein.
Bon, eh ben, allez, hop, on embarque pour notre tour du monde hebdomadaire avec Benaouda Abdelhaïm et puis sa moisson d'études et puis un nouveau compère dans la librairie de l'écho, Alexandre Bruno, qui viendra nous parler, lui, d'un livre qui fait un tabac aux États-Unis. Allez.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs.
Bonjour Benaouda.
Bonjour.
Allez, on démarre notre tour du monde hebdomadaire avec une étude de la CNUSED sur l'impact des tensions commerciales pour les pays en développement.
Alors, c'est très très épais. J'en ai ressorti une partie particulièrement intéressante. Il ressort ces tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, que c'est l'Union européenne qui va en tirer bénéfice dans la réorientation des flux mondiaux. Oui, alors c'est démontré, calcul à l'appui. Alors d'après ce rapport de la CNUSED, ce sont les Européens qui dans le monde vont profiter de la situation si elle dégénérait durablement entre Washington et Pékin. Sur les 302 milliards de dollars concernés par le litige sino-américain, 70 milliards de surcroît de commerce reviendraient aux entreprises européennes en Europe, 50 milliards en raison des taxes américaines sur les produits de la Chine et 20 milliards en raison des taxes chinoises sur les biens américains, parce que les chaînes d'approvisionnement européennes seraient alors les mieux à même de combler les manques dans les flux internationaux pour les uns et pour les autres, que ce soit dans les machines, la chimie, le papier, l'automobile, les légumes, la liste est très longue. Les économistes de la CNUSED ne prennent toutefois pas en compte un paramètre, c'est que si l'administration Trump se retournait ensuite contre l'Union européenne après la Chine, là ça sera peut-être un autre rapport.
Question mystère, pourquoi les prix de l'électricité ne baissent-ils pas?
Alors, on parle du Royaume-Uni. C'est Dieter Helm, qui est professeur d'économie de l'énergie à Oxford, qui s'interroge. On nous dit que le coût du renouvelable ne cesse de diminuer. Ouais. On voit que les cours du pétrole et du gaz ont rechuté et que la demande est modérée. Et pourtant, l'électricité est toujours vendue plus chère. D'après sa démonstration, l'obstacle le plus important qui empêche le consommateur de profiter de ses avantages cumulés, c'est ce qu'il appelle les coûts hérités. Ces coûts hérités résultent de la politique gouvernementale et sont destinés à continuer à gonfler jusqu'en 2025, nous dit-il, au minimum. Parce qu'en réalité, dans l'industrie électrique, c'est l'État qui est l'acquéreur central, l'acquéreur fondamental. La facture réglée par le consommateur, entreprise ou ménage, a finalement peu à voir, voire rien du tout, avec l'évolution actuelle au jour le jour des coûts. Ainsi, personne ne peut décider, par exemple, qu'il va acheter son électricité de nouvelle génération d'éolien offshore, moins onéreuse que la précédente. Et il est obligé de faire avec ce qu'on lui donne. Alors que dans tout autre secteur, avec l'avantage technologique et les coûts qui reculent de ce fait, les actifs industriels passés sont forcés d'adapter leurs prix aux nouveaux prix. L'éminent professeur d'Oxford et conseiller du ministère de l'Énergie écrit que si au Royaume-Uni vous gagnez 28 000 livres par an, que vous payez plus de 1 000 livres pour votre électricité et qu'on vous dit qu'elle est de plus en plus décarbonée, mais dont 20% de ces 1 000 livres proviennent en fait de coûts hérités, des coûts passés, il y a de quoi être tenté, nous dit-il, de rejoindre les gilets jaunes britanniques.
Ah oui, ça veut dire qu'en fait le progrès technologique ne se diffuse que très très lentement sur les prix.
Il suffit que la programmation, nous dit-il, gouvernementale soit défectueuse, comme c'est le cas depuis quelques années, et vous continuez à payer la facture.
Comme souvent, la prévision gouvernementale, Ben Aouda, en ces matières-là, n'est-ce pas Jean-Marc?
Oh, il n'y a pas qu'en ces matières-là.
Allez, direction l'Himalaya pour terminer, Ben Aouda.
Hindouche-couche, Himalaya, montagne, changement climatique, durabilité et personne. Alors, c'est une étude particulièrement épaisse, particulièrement documentée, internationale, coordonnée par un centre de recherche basé au Népal. C'est le fruit du travail de 350 chercheurs durant 5 années. Que nous dit-elle? Les 2/3 des glaciers de l'Himalaya pourrait fondre d'ici à la fin du siècle en raison du réchauffement climatique. Dans la meilleure des hypothèses, c'est-à-dire si une action climatique particulièrement vigoureuse est entreprise, maintenant, aujourd'hui, 30% de ces glaciers vont quand même fondre avec des débits fluviaux qui vont être bouleversés pour des pays aussi peu peuplés que la Chine, l'Inde, le Vietnam, le Pakistan et d'autres. Dans les montagnes, et bien plus de personnes encore en aval vont être affectées, pour leur réseau d'eau potable, pour leur irrigation, pour la production électrique des barrages. Le document évalue les montants qu'il faut maintenant tout de suite prévoir pour adapter les infrastructures. C'est entre 38 et 55 milliards de dollars d'ici à 2030, donc ce n'est pas tout à fait insurmontable. Mais le rapport prévient aussi que beaucoup, beaucoup de pertes ne sont en réalité pas quantifiables.
Ouais, Christian, plus de glaciers, plus d'insectes dans 100 ans, on finit par se demander qu'est-ce qu'il faudra aligner comme
études. Toutes les études, semaine après semaine, nous montrent que y a des gros problèmes climatiques de gouvernance sont pas à la hauteur.
Là, il y a une vraie accélération. Et puis, ça n'est pas terminé parce qu'on a décidé de muscler notre offre à l'international, tellement il y a de livres qui sortent. Bonjour Alexandre Bruno.
Bonjour Emmanuel.
Alexandre, vous êtes le fondateur de Kuber. Kuber, c'est une plateforme qui lit quasiment allez, tous les livres qui sortent en langue anglaise.
C'est exactement.
En roman, hein.
Exactement.
En roman, mais c'est roman. Ça qui nous, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, on s'est décidé à vous faire venir. Vous viendrez nous voir régulièrement, bah, pour nous faire découvrir finalement le livre qu'il faut absolument lire en ce moment.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, pour nous en restituer le meilleur. Là, on a choisi Give People Money de Annie Laurie. Un livre sur le revenu universel. Pourquoi vous avez choisi ce livre, Alexandre ?
Alors, on a choisi ce livre parce que c'est très intéressant de voir la manière dont Annie Laurie traite le sujet. Ça nous permet à la fois de découvrir, à travers différentes expériences qui ont été menées dans différents pays du monde, la manière dont le revenu universel est perçu dans des écosystèmes qui, finalement, ont d'autres contraintes sociales, ont d'autres contraintes politiques, ont d'autres contraintes économiques.
Un mot peut-être sur l'auteur, Annie Laurie.
Oui, tout à fait. Annie Laurie, donc, c'est une journaliste américaine qui a étudié à Harvard et qui a fait ses armes au New York Times. Et elle est aujourd'hui journaliste politique et économique au magazine très sérieux américain The Atlantic. Donc elle a découvert le sujet du revenu universel en 2016, alors qu'elle traitait le sujet du référendum en Suisse qui a voté pour 75% non à la mise en place du revenu universel dans le pays. Et c'est à ce moment-là que son enquête a commencé.
Et donc elle nous emmène où ?
Et justement, son enquête, elle nous emmène en Afrique, où elle suit une ONG américaine qui s'appelle Give Directly et qui a sélectionné un village au Kenya dans lequel ils ont mené une expérience. Au lieu de faire des dons comme ce qui se fait habituellement sous forme de dons en nature, sous forme de vêtements ou sous forme de nourriture, dons qui, soit dit en passant, viennent souvent perturber les écosystèmes locaux, eh bien cette association, elle a décidé de donner directement de l'argent. Elle a décidé de donner $20 par mois, par habitant, à tous les habitants de ce village. Et elle a fait ça pendant 12 ans, et ce don n'était assorti d'aucune condition. C'est-à-dire que les gens pouvaient dépenser l'argent comme ils le voulaient. Et contrairement à ce que certains auraient pu penser, les gens ne se sont pas arrêtés de travailler. Mais bien au contraire, ils ont dépensé cet argent pour améliorer leur confort. Donc ils ont refait le toit de leur maison, ils ont acheté de la nourriture et des vêtements. Mais ils ont aussi et surtout investi dans leur outil de travail. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'ils ont acheté des filets de pêche, ils ont acheté des chèvres, des moyens de transport, et ils ont même constitué une microbanque dans le village, figurez-vous. Et les résultats ont été édifiants, puisque très rapidement, au bout de quelques mois, on a observé que le patrimoine des foyers a doublé, que le taux de violence domestique a diminué et que le taux d'absentéisme à l'école a lui aussi diminué.
Donc Alexandre, un bilan extrêmement positif.
Extrêmement positif. Ce livre, il permet à ceux qui vont le lire d'élargir leur horizon sur ce qu'est le revenu universel.
C'est un livre qui s'est extrêmement bien vendu.
Tout à fait. Il a été sélectionné pour le prix du Financial Times du livre de l'année en 2018.
Gros carton. Merci Alexandre Bruno. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quel est votre dernier choix pour aujourd'hui ?
Une bande dessinée aux éditions Futuropolis. La ZAD, c'est plus grand que nous. La ZAD, c'est la zone à défendre. Les gens qui ont investi le terrain pour éviter la construction de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Alors, on sent bien que les deux auteurs sont plutôt favorables à ce qui s'est passé là-bas. En même temps, ils évitent tout romantisme révolutionnaire. On comprend bien qu'entre les paysans et les autres, les petits jeunes qui voulaient refaire le monde, il y avait des différences, voire même des conflits. Qu'entre ces petits jeunes, il y a ceux qui voulaient aller manifester, trouver des compromis, et d'autres qui étaient prêts à aller jusqu'au braquage et à la violence. Enfin, on voit bien qu'il y avait beaucoup de conflits. À la fin, on sait bien que c'est eux qui ont gagné. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a gagné ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait de sa vie une fois qu'on a participé de longs mois et de longs mois à ce genre de mouvement ? C'est une BD à la fois de combat et d'apprentissage. Elle est vraiment intéressante parce qu'on est vraiment à l'intérieur de ces gens qui ont investi la zone à défendre. Une belle leçon.
C'est un filon qui se développe. Hein. On se rappelle de la BD aussi sur l'Aquarius.
Oui, tout à fait.
Exactement. Jean-Marc Daniel.
Alors moi j'ai choisi le dernier livre de Paul Ariès. Alors on pourrait être surpris de ce choix puisque Paul Ariès est quand même un universitaire qui est militant de la décroissance, qui défend la gratuité dans les transports.
Qu'est-ce qui vous arrive, Jean-Marc ?
Et oui, donc j'étais d'accord avec Christian. Donc c'est mon jour d'ouverture d'esprit.
Et donc profitons-en.
Oui, ça durera pas longtemps. Et en fait, son livre s'appelle Lettre ouverte aux mangeurs de viande.
Ah, mais bien sûr.
Rester sans culpabiliser. Donc je pense que vous allez vous associer.
Ah oui, donc en fait. fait, ça n'est qu'un compromis de façade.
Voilà. Donc, Christian. Paul Ariès, avec à la fois de l'humour et des arguments assez percutants, défend l'idée que les véganes sont totalement à côté de la plaque, que c'est une mode qui est une mode assez inepte, et que la nature, puisqu'il se définit comme écologiste, suppose effectivement que, à la fois pour des raisons d'équilibre alimentaire et puis aussi de fonctionnement même de la vie, nous continuions à manger de la viande. Il y a un moment où il explique que si on mange de la salade, on est obligé de tuer des limaces et donc de tuer aussi des êtres vivants. On finit toujours par tuer des êtres vivants. Donc tout ça est assez court, bien envoyé, et je le recommande pour tous ceux qui ont des doutes.
Et bon appétit, bien sûr, aurait dit le grand maître Joël Robuchon. Alors moi, j'ai reçu une somme absolument incroyable, ça s'appelle Le Grand Paris Express. Le Grand Paris Express, c'est 2 tomes chez Economica. Les 7 clés du succès par Dominique Bureau, Jean-Claude Praget et Émile Quinet, et Les enjeux économiques et urbains, 2e tome, sous la direction de Jean-Claude Praget. Et alors là, c'est l'ensemble de toutes les recherches économiques, géographiques qui ont été effectuées depuis une dizaine d'années pour mieux comprendre tous les tenants et aboutissants de ce dossier du Grand Paris, ce qui fait que ça va au-delà de l'intérêt simple de la région parisienne, parce que tous les aspects sont abordés, l'impact sur la mobilité, les effets de cet investissement sur l'emploi, la croissance, bref, ça a vraiment un intérêt en termes de, voilà, qu'est-ce que ça peut changer, des nouvelles infrastructures de transport sur tout un écosystème économique, un énorme travail, mais très très impressionnant. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.